Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, eh bien, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a pris des décisions très 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 lourdes dans sa deuxième partie de vie, comme elle va nous le raconter. Pourquoi et comment et quelles sont ses décisions et qu'est-ce qu'elle en a retiré? Elle nous raconte tout ça tout de suite.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lalla Bouchachour, mahbabik maaya, comment ça va?
Bonjour Lalla Yasmine, ça va très bien, je te remercie et toi?
Rabbi khalik, heureuse de t'avoir avec moi au téléphone et heureuse de notre discussion de femme d'aujourd'hui. Alors justement, mdebhed souel Lalla Bouchara, pour toi être femme aujourd'hui, ça veut dire quoi, selon ton expérience personnelle?
Pour moi, ça veut dire être une femme actrice de sa société et pouvoir évoluer avec son temps et avec tout le passé, avec tout le bagage personnel, de pouvoir en faire une force pour avancer et aider les autres à avancer.
Alors, Hadi, c'est la psy qui parle ou la femme?
C'est les deux.
Alors, Bouchara, justement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir être actrice de sa vie, il faut être outillée. N'tit barkallah, en termes de bagage académique, tu as les outils pour. Est-ce que ça a toujours été le cas?
Non, j'ai appris sur le tas, dans le sens où moi je suis belgo-marocaine, donc j'ai travaillé en Belgique avec les réfugiés et j'ai appris avec eux. Effectivement, j'avais les outils académiques de base et j'ai appris chaque année, chaque jour, chaque épreuve. J'ai continué à apprendre et à apprendre. Encore aujourd'hui, je continue à apprendre, à me former. Je pense que les outils, on les a dans la vie quotidienne, mais on les a aussi au contact des autres, de nos patients, des personnes que nous aidons, des personnes que nous accompagnons, de notre famille, de nos amis.
Donc, et on s'accompagne aussi soi-même, parfois.
Et on s'accompagne, bien sûr. Les meilleurs psys, les meilleurs thérapeutes sont ceux qui se font accompagner.
Aussi, exactement. Les décisions compliquées de la vie, est-ce que même quand on est thérapeute, on est capable de les prendre facilement?
Les décisions difficiles, on a toujours besoin d'un regard extérieur. Et c'est ce que je dis toujours dans mes interventions, c'est que c'est pas parce qu'on est outillé, qu'on est diplômé, qu'on a un regard neutre sur soi-même. Justement, on n'a pas ce regard neutre. Et en fait, le regard des autres personnes peuvent nous aider à voir clair. C'est vraiment important de pouvoir demander l'avis, le conseil et le regard d'autres personnes, forcément des professionnels, hein, ça peut être des professionnels, mais aussi d'autres personnes qui nous entourent. Parce que, comme on dit dans l'exemple marocain, c'est que le chameau ne voit pas sa propre bosse. Donc, c'est important de pouvoir toujours rester ouvert au regard des autres, qui nous renvoient généralement parfois nos propres blessures et nos propres difficultés.
Alors, Bouchara, parlons vrai, parlons honnête, parlons femme. C'est quoi ta bosse? Ou là, c'était quoi ta bosse? À toi.
Ah, moi, j'en ai beaucoup. Dans mon histoire, ce qui a été difficile pour moi, c'est le choix de quitter le pays qui m'a vu naître et grandir pour venir au Maroc. Ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi. J'ai dû aider les autres en ayant une blessure qui n'était pas évidente, qui est celle d'avoir laissé mes enfants en Belgique et mes parents, mes frères et sœurs, et de tout devoir reconstruire ici. Dans un pays que je connaissais peut-être pas forcément, et avec simplement ma volonté d'apporter ma pierre au Maroc, à l'édifice marocain.
Mais par exemple, les enfants,
parce que c'est un choix personnel. J'ai voulu venir vivre au Maroc. Je devais pas, Mathilde, je vais pas imposer mon choix à mes enfants qui étaient presque adolescents. Et au Likano Kirkara, au Belgique. Donc, c'est un choix personnel que j'ai fait. Eux-mêmes ont dit, maman, il est temps que tu réalises ton rêve. C'était mon rêve. Et en tant que maman, je pense que d'un côté positif, c'est que je leur ai appris à vivre leur rêve. D'un autre, ça reste douloureux d'avancer parfois sans ses enfants à côté de soi.
Je suis d'accord.
Donc parfois c'est dur et je cherche la force auprès de personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que ça m'aide énormément.
Et le rêve de Bouchara, c'était quoi justement? Ce rêve dont tes enfants étaient tellement conscients au point de te donner cette carte blanche, de les laisser
rêve,
et de partir.
Depuis toute petite, c'est de venir vivre au Maroc.
Dans ton pays d'origine.
Dans mon pays d'origine, parce que comme je disais, je suis née en Belgique. Dans mon pays d'origine, là où je me sens bien, c'est mon rêve, c'est d'apporter mes connaissances, mon expérience à mon pays. C'est de pouvoir être fière de mes origines, c'est de pouvoir revenir sur la terre de mes ancêtres. Et comme je l'ai dit l'année passée au sommet à Casablanca qu'on avait fait, c'est de réaliser la promesse que mes parents ont fait à leurs parents. Mon père a fait la promesse à sa maman de revenir un jour plus fort. Il n'a pas pu le faire parce qu'il est toujours en Belgique. Mais moi, j'ai rempli cette promesse et je suis revenue plus forte avec tout ce que mes parents m'ont appris, avec tout ce que j'ai appris, avec mon expérience pour aider, pour apporter ma pierre à l'édifice du développement marocain et de l'Afrique en général.
Alors, ok, au-delà de ces belles phrases, Bouchara,
ouais.
Au-delà de ces beaux slogans qui sont bien, qui sont très bien aussi, mais au-delà, il y a aussi une part très personnelle. C'est toi la spécialiste, c'est pas moi. Moi, je vais utiliser peut-être le terme et tu vas me dire si j'ai raison, si j'ai tort et qu'est-ce qui se cache derrière. Il y a aussi cette notion en thérapie, en accompagnement de la transgénération. C'est-à-dire que on est porteur dans nos cœurs, génération après génération, d'un mal-être ou de quelque chose. Est-ce que justement en rentrant au pays, tu as voulu réparer en quelque sorte, parce que tu as dit j'ai voulu remplir la promesse de mon père.
Peut-être qu'il y a cette notion de réparation. En tout cas, moi, je dirais plutôt une notion de finition, de finir quelque chose qui a été commencé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement suivre ce que je ressentais. Je me souviens quand j'étais jeune, à chaque fois que je venais au Maroc, je me sentais bien. Et dès que je repartais en Belgique, je me sentais moins bien en termes de santé. Et je me suis dit que si moi, je me sens bien ici, c'est que ma place est ici, aujourd'hui. J'ai pris la décision à 16 ans de venir vivre au Maroc pour réaliser mon rêve et parce que je me sentais bien. Donc c'était vraiment ça. C'était de me sentir bien ici, de me sentir épanouie. Et la phrase qui m'a touchée quand je suis venue les premiers mois au Maroc, c'était « Bouchara, on dirait que tu as vécu toute ta vie au Maroc, pourtant tu venais qu'une fois par an. » Et je me suis dit « C'est ici ma place, tout simplement. »
Mais pourquoi pas... Alors, Bouchara, une question un peu, on va dire, curieuse. Pourquoi tu n'as pas décidé, pourquoi tu n'as pas pris la décision de venir, par exemple, fonder ta famille au Maroc?
J'avais pris la décision. C'était une décision que j'ai prise à 16 ans. À 16 ans, je me suis dit, quand je me marierai, je viendrai vivre au Maroc.
Oui.
Ça ne s'est pas fait.
Ça ne s'est pas fait.
Ça n'a pas pu se faire.
Non.
Non. Mais c'était une décision que j'avais prise, effectivement.
Et ça ne s'est pas fait parce que l'autre personne n'était pas emballée.
Exactement. Exactement. Exactement.
Tu n'avais pas mis ça comme critère de choix de ton conjoint?
Je l'avais mis comme condition de mariage.
D'accord.
Ça ne s'est pas fait. J'étais très jeune. Je me suis mariée à 20 ans.
Donc tu l'as carrément mis comme condition de mariage?
Ouais.
À ce point, c'était important pour toi de revenir au Maroc?
C'était non négociable pour moi. C'était clair et net. À 16 ans, j'avais une vision claire et nette.
Et quand ça ne s'est pas fait?
Pardon?
Et quand ça ne s'est pas fait?
Bah, finalement, bon, moi, je suis une femme divorcée. Donc, finalement, quand j'ai divorcé, j'ai décidé de réaliser ce que j'avais décidé de réaliser. Simplement, ça a pris quelques années puisque les enfants étaient encore petits. J'ai divorcé, mes enfants avaient 5 et 4 ans.
D'accord.
Donc, c'était encore très petit pour pouvoir les laisser. Et donc, j'ai attendu quelques années avant de pouvoir faire le pas, que je n'ai pas regretté, mais qui a sa part de difficulté aussi. C'est ce que je partage avec les personnes qui me suivent. Je leur dis que la difficulté fait ma force, puisque ça fait c'est pas évident tous les jours. C'est vraiment pas facile, mais je suis là où j'ai envie d'être et là où je me sens bien aujourd'hui.
Alors justement, la femme se sent bien et la maman se sent comment?
Au début, c'était difficile. Il y a un mélange d'émotions, de tristesse, de manque, de culpabilité aussi. Avec les années, j'ai appris beaucoup de choses.
Avec les années, enfants, ça fait combien de temps que tu es au Maroc ?
Ça fait 5 ans.
Quand même.
Ça fait 5 ans. Ouais.
Et ils n'ont pas les encore enfants... eu envie de venir s'installer avec toi ?
Oh, si, ils en ont envie, mais après, moi je leur dis, il y a votre vie, il y a votre papa, il y a vos études. Donc, ils savent qu'ils peuvent venir s'ils en ont envie, mais ils suivent leur trajet. Ce que j'ai appris à mes enfants, c'est l'autonomie dans leurs décisions. Et je pense que c'est ma victoire en tant que maman de leur avoir appris. Donc quand je me sens mal, je me dis oui, mais finalement, je leur ai donné une bonne leçon. Je leur ai appris quelque chose, c'est de suivre leurs rêves et de s'écouter eux-mêmes, là où ils se sentent bien. Donc oui, parfois, c'est pas évident, mais je pense que c'est un avantage aussi. Et eux le voient comme un avantage. Je dis, grâce à toi, maman, on peut venir au Maroc plusieurs fois par an. Mmh. Donc
c'est ça.
Voilà. Mais ils savent que si ils ont, dès le départ, je leur ai dit, le jour où vous avez vraiment envie que je revienne, vous me le dites, je reviens. J'ai aucun souci. Et ils m'ont dit non, on préfère maman du Maroc.
Oui, c'est vrai. Ils sentent une différence.
Oui. Oui, oui. Ouais. Mon fils me l'a dit il y a quelques mois. Il m'a dit non, moi, je veux pas qu'on te voie ici en Belgique. Je préfère maman du Maroc. Elle est mieux.
C'est vrai. C'est quoi la différence, justement ?
Elle est plus cool et plus souriante, il m'a dit.
C'est incroyable.
C'est fou, hein?
Ouais. Elle est plus cool et plus souriante. Ouais. Alors, la culpabilité, tu la gères comment, Bouchara?
En voyant le bon côté des choses, de un, et je suis quelqu'un d'assez spirituel, donc c'est un choix qui a aussi un côté spirituel de vivre au Maroc pour moi. Et je me dis que à chaque fois que je me dis est-ce que j'ai fait le bon choix, j'ai toujours ces idées de départ, cette conviction de départ qui me disent non Bouchra, tu as fait le bon choix. La relation avec les enfants n'est pas dans la quantité, mais elle est dans la qualité. Mmh. Et je reçois beaucoup de familles avec des enfants qui sont là H24, mais qui vivent une mauvaise qualité de relation. Donc je me dis Alhamdoulilah et je remercie Dieu pour ça, j'ai une très bonne relation avec mes enfants. Donc, voilà, c'est comme ça que je la gère, en voyant plutôt la qualité que la quantité.
La quantité, c'est ça.
Je vivais un burn-out en Belgique mes dernières années. J'ai vécu, les dernières années avant que je vienne, j'étais vraiment pas bien. Et émotionnellement, j'étais pas disponible avec mes enfants.
Ça n'avait rien à voir avec ton divorce ?
Non.
C'était toi et toi-même.
C'était moi-même, ma place, mon ressenti. Non, c'était pas ça. C'était vraiment par rapport, je vivais un burn-out, donc par rapport à mon travail, c'était compliqué. Puis il y avait
dans le même domaine.
J'étais expert psychosocial au ministère de la Justice en Belgique.
D'accord.
Je travaillais avec les réfugiés, les mineurs étrangers non accompagnés. Donc toujours dans le domaine psychosocial, des difficultés de la vie très lourdes. La thérapie neuro-émotionnelle, c'est quelque chose que j'ai développé au Maroc. Donc c'était un moment où j'ai vécu un burn-out, j'étais vraiment, je peux le dire, au fond du trou. Et je voyais que dans la qualité avec dans la relation avec mes enfants, il n'y avait pas cette qualité, j'étais pas disponible émotionnellement. Et du coup, je crois que j'ai vraiment gagné en termes de qualité de relation avec mes enfants. Et c'est comme ça que je gérais ma culpabilité.
Alors justement, par rapport à ce burn-out, c'est aussi la nature de ton travail. Ça devait être très difficile et très lourd émotionnellement de travailler avec une population aussi jeune et aussi vulnérable.
C'était pas par rapport à la population, parce que j'avais plusieurs années d'expérience. Hein. J'étais déjà dans ma 15e année d'expérience, où j'ai accompagné vraiment des situations très, 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 très difficiles, notamment durant la guerre de l'Irak, principalement. Donc, c'était plus par rapport au fait que j'étais arrivée à un stade où j'avais l'impression que je me développais plus, que je voulais faire autre chose, que je voulais continuer à aider les gens. Et quand on est, c'est pas évident quand on est fonctionnaire, on a quand même un cadre de travail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après les attentats de 2016, beaucoup de choses ont changé, notamment dans la prise en charge des réfugiés. Et en fait, j'avais l'impression que mon travail n'avait plus le sens défense des droits de l'homme que j'avais au départ. Mmh. Et donc, j'ai perdu un sens dans le travail que je faisais. Dans l'ambiance qui régnait en Belgique. Et là, ça a été pour moi un déclic. Mmh. Je me suis dit, c'est bon, je crois que maintenant, j'approche de la quarantaine. Il est temps pour moi de passer à autre chose et de commencer ce qu'on appelle la deuxième vie. celle qu'on choisit.
Celle qu'on choisit. Alors justement, ce cap de la quarantaine, tu l'as vécu comment ? En tant que femme ?
En tant que femme ?
Dans ton corps, dans ta tête
Ça a été pour moi...
Et dans ton cœur aussi ?
Oui, c'était pour moi quelque chose de très grand. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas rien. C'était un passage que je voulais marquer. J'ai pris une journée pour moi pour réfléchir. J'ai dit, OK, Bouchara, voilà, tu entames ta deuxième vie. Parce qu'on dit qu'on a deux vies, une avant 40 ans, une après 40 ans. Et quelle vie est-ce que moi, je choisis ? Et là, j'ai clairement établi ce que je voulais en termes de vie professionnelle. Même en termes de critères par rapport à la vie privée, qu'est-ce que je voudrais comme personne qui m'accompagne dans ma vie. Mmh. Et je pense que ça m'a fait, d'un côté, ça a été quelque chose de très... Ça m'a fait peur, la quarantaine m'a fait peur.
Oui, tu as eu peur de ce...
Oui, j'ai eu peur de 40 ans. Ouais. C'est aussi se dire que voilà, c'est autre chose. On rentre dans une autre phase en tant que femme. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et puis c'est pour ça que j'ai vraiment.
Et qu'est-ce
pris
qui t'a
le temps.
Fait peur ? C'est le fait de prendre de l'âge. C'est le fait de.
C'est le fait de prendre de l'âge.
D'avoir des rides. C'est quoi de.
Non, c'est non pas les rides. Parce que non, c'est pas les rides, mais. C'est plutôt de se dire, on est à la moitié, quoi, plus ou moins.
Ouais.
Et de se dire que maintenant, je suis... En fait, c'est de se dire maintenant, je suis consciente de la vie que je vais choisir. Donc, jusqu'à présent, je me suis plaint, entre guillemets, de ce que je subissais ou de ce que j'avais subi, de par la société, de par mes deux origines, de par le contexte familial et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, je suis, moi, responsable de ma deuxième vie.
Je ne peux blâmer personne.
Voilà, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ouais. Et il faut que je fasse les bons choix. Et ça a été quelque chose de très fort. Et donc vraiment, j'ai voulu marquer ce jour-là. J'ai pris une journée pour moi et vraiment pour me poser, réfléchir, me dire OK, Bouchara, ça y est, on y va. Il y a aussi un deuil qui s'est fait dans ma tête. Moi je suis divorcée depuis que j'ai 30 ans, donc je me suis dit si je me remarie un jour, j'aurai peut-être d'autres enfants. Et donc j'avais fait ce deuil là à 40 ans, de dire aujourd'hui tu as deux enfants, alhamdoulillah, shukrullah, mais il s'agira plus d'avoir d'autres enfants maintenant. Donc il y avait aussi ça, je pense que toutes les femmes à un moment donné se disent je vais faire le deuil de la maternité.
De la maternité. Mais c'est toujours possible. Un peu plus compliqué, on va dire.
Voilà, c'est ça. Mais dans la tête, on a toujours, surtout en Europe, vous savez, on nous dit toujours, oui, après 40 ans, il n'y a plus d'enfants. Après 40 ans, on grandit avec cette mentalité.
C'est vrai, on dit ça ?
Oui.
Ok.
Oui. Ouais. J'ai entendu ça toute ma vie. Une fois 40 ans, vaut mieux pas avoir d'enfants, tu risques d'avoir un enfant handicapé.
C'est ça, exact.
Ouais. Alors que, ça dépend de beaucoup de choses.
Exactement. Quelqu'un dans ta vie, Bouchara ? Yasmine est très curieuse.
Non. Je suis toujours célibataire. J'aime bien dire un cœur à prendre.
Ouais.
Parce que je pense que quand on arrive à un certain âge, avec une expérience de vie, avec un combat comme j'ai mené, l'expatriation n'est pas évidente, surtout quand personne ne comprend ce que tu fais.
C'est ça.
On a clairement une idée sur la personne qu'on voudrait qui partage notre vie. Je suis quelqu'un d'assez anticonformiste, dans le sens où je suis une boxeuse, je suis quelqu'un qui adore les sports de grands défis, j'adore de bouger, j'adore voyager, donc je suis quelqu'un qui, dans mon caractère, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait plus ou moins les mêmes critères, et voilà. Donc il y a beaucoup de choses.
Boxeur aussi.
En tout cas, sportif.
Sportif, exactement. Exactement. Alors, les hommes marocains, tu les trouves comment, Bouchara, justement ?
Ah, moi j'aime tout le monde, moi, les hommes marocains, avec ça.
Femmes marocaines critiquent souvent les hommes marocains.
Moi, avec mon travail, j'ai rencontré des gens du monde entier. J'oublierai jamais celui qui m'a donné la plus belle leçon de ma vie, c'est un moine bouddhiste qui est venu dans mon bureau à Bruxelles.
Ouais.
Et il m'a dit, vous savez, madame, tous les êtres humains sont des êtres humains. Mm. Et là, je trouvais ça tellement fort. Je pense qu'il ne s'agit pas d'être marocain ou d'être... je connais beaucoup de monde, je rencontre énormément de monde. Et ce que je vois, c'est ce qui fait l'homme, vraiment, ici j'ai parlé des hommes, ce qui fait l'homme, c'est son éducation et surtout ses épreuves et ses expériences. Mm. Donc pour moi, il n'y a pas de critère d'âge, il n'y a pas de critère de nationalité, il n'y a pas de critère, mais plutôt un critère de mentalité. Et la mentalité, c'est l'expérience. C'est, si aujourd'hui je suis la femme que je suis, c'est parce que j'ai vécu des expériences extrêmes, autant dans le bonheur que dans la douleur. Et c'est ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui à 43 ans.
C'est ça. Mais est-ce que tu as eu quand même des phrases difficiles, des mots difficiles, des choses pour te faire culpabiliser du fait de faire ta
quand
vie loin de tes enfants?
Ouais. Oui, quand j'ai quitté la Belgique, ça a été une décision qui a été prise en un mois et demi.
D'accord.
J'ai reçu une proposition d'emploi ici au Maroc, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour venir. J'ai entendu ces phrases-là. Tu es indigne d'avoir des enfants. Mmh. Certaines femmes pleurent pour avoir des enfants. Toi, tu les abandonnes. Tu abandonnes tes parents. Tu es totalement irresponsable. Tu vis pour toi. Tu es une égoïste. Mmh. Tu penses à personne.
J'imagine de personnes très proches.
Bien sûr. Mmh. Les étrangers vont me dire « Ah oui, j'ai entendu une autre style de phrase, mais ça, c'est plutôt des étrangers. C'est « Qu'est-ce que tu as fait de mal en Belgique pour avoir fui au Maroc ?»
D'accord.
Comme si j'étais une délinquante qui avait tué quelqu'un en Belgique. Il y a quelques années, partir de la Belgique et d'un poste aussi important que j'avais pour venir vivre au Maroc,
c'est douteux.
Totalement, voilà, incompréhensible. Mmh. Aujourd'hui, je suis contactée par beaucoup de Belgo-Marocains, beaucoup de MRE, qui me demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire en termes de démarche pour venir vivre au Maroc.
Et c'était compliqué, en termes de démarche, justement ?
Non.
Non.
Tout est facilité au Maroc.
Oui.
Non. Au contraire. Moi, j'ai vraiment. Moi, j'ai senti un accueil à bras ouverts. Même en termes administratifs, j'ai jamais eu de problème de ma vie. Tout est hyper facilité. Enfin, au contraire, on sent que le Maroc a besoin de ses enfants. En tout cas, moi, je l'ai senti.
Et ses enfants ont besoin de lui aussi.
Je pense, oui. Je pense qu'on a quelque chose à faire ici. Que. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on a beaucoup de choses à faire et que ici, vous savez, je suis née en Belgique. J'ai grandi auprès des têtes blondes parce que mon père a toujours fait en sorte d'habiter dans des quartiers à faible fréquentation de migrants ou d'immigrés, ouais. En général. J'ai vraiment habité avec les têtes blondes, comme on dit. Mm. Et j'ai toujours entendu toute ma vie, je me suis sentie belge quand j'étais petite. J'ai toujours entendu que « Ah oui, mais t'es marocaine, ah oui, t'es marocaine, ah oui, t'es marocaine ». Donc, on s'est toujours senti, j'ai toujours dû me battre pour me faire accepter, pour avoir ma place, pour montrer que j'étais mieux que les autres. Je suis contente hein, parce que j'ai un très beau parcours en Belgique. J'ai travaillé au ministère avec un hijab. Donc, j'ai été très militante pour les droits de l'homme. On me connaissait en Belgique, on me voyait à la télé et tout ça. Mais il fallait faire un triple effort pour montrer qu'on méritait notre place. Et quand je suis venue au Maroc, on m'a pas dit « Oui, mais t'es belge », on m'a dit « Bienvenue chez toi ». Et ça fait du bien, vraiment.
Bousra Charour, merci beaucoup, oui. beaucoup merci, d'avoir merci. Été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Yasmine.
Je te souhaite une belle journée, Bousra.
Merci à vous aussi, au revoir.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.